Des frères. Puisque l'office divin ne nous est pas permis dans les circonstances actuelles, laissons une prière d'espérance s'élever vers le ciel. Ce n'est pas la première fois que nos maisons ont les pieds mouillés. L'homme a connu d'autres déluges. Mais un jour, les eaux se retirent, le soleil revient, les fleurs refleurissent, et l'homme recommence. Oui, un jour prochain, vous reviendrez et nous recommencerons tous ensemble.
Radio Pandémie. Ensemble sur Radio Panique.
Bonjour chers auditeurs, ici c'est Jean-François. Je viens vers vous. On va directement s'intéresser au coronavirus Covid-19 parce qu'il y en a partout. On a contacté un de nos correspondants d'une institution à Neuville qui s'appelle Yves. Avant Yves, Annette va faire le point sur la situation de Fakirwe. Comment ça se passe, Annette, maintenant ici dans Fakirwe?
Eh bien, je ne croyais pas arriver. Le coronavirus a fait des morts en Italie, en Espagne, en France. C'est venu de la Chine d'abord, hein, puis tous les pays d'Europe se sont contaminés. Sa cause serait d'une chauve-souris ou d'un pangolin, qui est une espèce de petit lézard à forme de dinosaure, qui aurait transmis la maladie. Et à Fakirwe, les visiteurs ne peuvent plus venir nous rendre visite. Et comment? Je peux plus aller à ma chorale. Je fais un petit coucou à Nadia, ma chef de chœur, à Noémie et à toutes les femmes. Je vous fais des gros bisous.
Et c'est quelle chorale?
La chorale Corma Chorale, à Jette, à la rue Firmin Le Charlier, numéro 4, à Jette.
Comment ça se passe dans la journée?
Eh bien, Gaëtan, comment tous les éducateurs se lavent régulièrement les mains?
Vous aussi, non?
Je demande de les désinfecter souvent, et c'est pas facile à vivre.
À cause de quoi, surtout?
À cause des sorties.
Sorties supprimées?
Oui, oui.
Attends. Ce que tu dis, toi, Valérie?
Pour l'instant, c'est supprimé, Annette.
Oui, je suppose qu'Annette espère que ça durera pas trop longtemps. Hein.
Mais je voudrais pas faire l'oiseau de mauvais augure encore une fois. Mais Isa m'a dit que l'état d'alerte se prolongerait jusqu'après les vacances de Pâques.
C'est ce qu'ils ont dit à la télévision, c'est?
Qu'est-ce qu'on va faire à Pâques alors, Annette?
Ben écoute, nos joyeux éducateurs nous aideront. Maintenant, il faut pas tout de suite rentrer dans le mélodrame ni dans les trucs. Ce n'est que de la prévention. Il y a personne qui est malade à Fakirwe. De la maladie même, il y a personne qui est malade de ça. C'est juste une précaution pour que le virus ne se propage pas plus. Il vaut mieux maintenant que, disons, pendant 3 mois, n'ait pu circuler librement, alors qu'il y en aurait déjà eu.
Tu te rattraperas après, toi, Annette. Hein?
Ben oui, je me rattraperai. Un jour, j'achèterai un gros ballotin de praline et pour mes copines de la chorale, parce que C'est ma petite bouffée d'air. Même si j'ai un petit peu peur dans les transports, c'est ma bouffée d'air du mercredi. C'était Anne Simon, reporter à Comme sur des roulettes. Nous vous dirons encore ce qui se passe à Faqueray face au coronavirus, mais surtout continuez à vivre et continuez à nous écouter. Nous avons besoin de vous, les auditeurs. Et par les autres, il n'y a pas de virus. Hein. Donc, vous pouvez mettre vos impressions sur le blog, sur l'email de Faqueray.
Que Étienne va pouvoir rappeler.
Radio Automusique des Roulettes à gmail.com.
Et toi, Étienne, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voudrais que tu réagisses.
J'ai envie de... Il y avait 500 atteints par le virus.
Où ça?
500 personnes.
En Belgique?
Oui, 700 personnes qui sont atteintes, mais j'espère que ça va pas autrement tomber.
Là, on est le 13, hein, le 13 mars.
Faut s'attendre à 200.
Ça augmente encore?
Oui.
Je vois que tu te protèges, Étienne. Hein.
Oui.
Il y a un dernier mot pour les auditeurs?
Avant d'aller partir, j'ai parti en Espagne et il y avait encore du monde.
Ça, faut pas trop le dire, hein, que t'es parti en Espagne, Gaëtan.
Tous les auditeurs, nous allons vous écouter le temps que ça passe, tous les problèmes. Tous les 15 jours, nous allons passer encore les informations de ce qui se passe au centre, de tout ce qui nous entoure, et nos parents et tout ça, de ce qu'ils ont comme problème. Prenez soin de vous et couchez-vous jusqu'à ce que la radio vous passe. Tout sera du bien.
La radio vous font du bien. Écoutez-la. Et dans les autres, il n'y a pas du tout de virus.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
courage, chers auditeurs. Main dans la main, on peut plus, mais qu'à cela ne tienne, gardez le moral et écoutez-nous. Nous sommes là à fond les manettes pour vous. Malheureusement, les reporters ne sauront plus pour l'instant sortir, mais les ondes sont toujours là, donc vous pourrez nous écouter. Et on réalisera les émissions de Comme sur des roulettes dans le quartier général de Faqueray. Et on vous donnera au fur et à mesure des nouvelles du truc. Comme je vous l'ai dit, c'est jusqu'après les vacances de Pâques, mais si ça va mieux, on sait pas.
Ici en Suisse, on n'est pas contraint au confinement total. Parce que apparemment, on n'est pas un pays qui fait de la politique du spectacle. Disons que la bienveillance de nos politiciens paraît un peu faux cul, surtout quand on sait que ces déclarations sont faites 3 jours après que tous les pays voisins aient déclaré le confinement total et qu'on compte les morts par centaines, milliers. N'empêche qu'on est... On est vraiment content de pouvoir se balader. On est vraiment content de pouvoir soutenir nos amis qui habitent tout seuls en appartement. Et on est vraiment content de ne pas avoir des contrôles de police à tous les coins de rue. Du coup, je vous souhaite tout le meilleur possible et je me réjouis vraiment de vous revoir. Voilà, je vous embrasse et à bientôt. Boscop.
L'antispécisme se tourne exclusivement sur l'abolition de la souffrance inutile infligée aux personnes animales non humaines. Malgré que l'arrêt d'un régime carné est bon pour notre corps, beaucoup d'antispécistes ne se préoccupent guère de leur propre santé en arrêtant de consommer chair et sécrétions. Bien entendu, les positions antispécistes se solidifient lorsqu'on prend conscience du désastre écologique induit par l'exploitation des animaux non humains des classes privilégiées et de l'anéantissement des écosystèmes d'un nombre incalculable d'espèces à travers le monde, les animaux humains n'étant bien sûr pas épargnés. Et à propos, actuellement, il est intéressant de souligner que la grande majorité des pandémies et autres épidémies en tout genre qui ravagent les rangs serrés des animaux humains découle justement de l'exploitation des animaux non humains. Citons par exemple le SRAS, un autre virus corona lié à la consommation de civettes et de chauves-souris, le virus d'Ebola lié à la consommation de la chair de singe, le VIH qui a probablement franchi la barrière des espèces par contamination sanguine entre des chasseurs et leurs proies, la grippe espagnole tuant entre 50 millions et 100 millions de personnes entre 1918 et 1919 est la pandémie la plus mortelle de l'histoire pour un laps de temps si court. Une hypothèse parmi les plus crédibles évoque la transmission du virus d'oiseaux aux humains en passant par le cochon. Ce scénario, avéré par l'OMS pour les 2 dernières grandes pandémies de grippe que le monde a connues, avait ressurgi pendant la mobilisation contre la grippe aviaire. Voilà encore une bonne raison parmi des centaines de remettre en question notre alimentation mortifère. En deçà, bien sûr, des questions d'éthique et de morale. Il n'y a pas de bonne manière d'exploiter les animaux. Humains comme non humains.
Bon, ben, je m'appelle Renaud Céline, donc c'est mon prénom, et j'ai cofondé avec plusieurs camarades il y a quelques années, enfin et maintenant plus d'un an, l'ASBL Génépi Belgique, et qui est une association qui œuvre pour le décloisonnement des milieux carcéraux, que ce soit par l'intervention sociale en prison, donc c'est-à-dire qu'on fait des interventions quand les établissements pénitentiaires nous le permettent, c'est-à-dire qu'on anime des groupes de discussion et de réflexion collective sur la situation actuelle. Notamment l'année dernière, on avait fait une campagne droit de vote, au droit, enfin en fait de réflexion sur l'accès au droit en prison, dont le droit le plus, disons, basique mais constitutif de notre système politique qui est le droit de vote, qui n'est pas interdit aux prisonniers, mais rien n'est mis en place pour le rendre effectif, le droit de vote. Et puis aussi, je suis membre du comité éditorial de La Brèche, qui est le journal du Génépi Belgique. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du journal.
Si, j'en ai entendu parler, ouais.
Ouais, donc La Brèche, c'est un journal qui vise à récolter le plus d'expressions matérielles et de faire circuler l'expression matérielle de la condition des détenus, que ce soit par leurs propres témoignages, leurs propres expressions artistiques, ou que ce soit par des analyses ou textes théoriques ou littéraires de personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre, ou qui agissent d'une manière ou d'une autre sur le système carcéral.
Et où est-ce qu'on peut se... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Ouais. Non.
Où est-ce qu'on peut trouver ce journal, justement?
Alors, le journal, pour l'instant, il y a deux numéros. Donc, c'est un biannuel. On a un premier journal qui était sur le genre et sexualité en prison. Le deuxième, c'est sur des travails et des peines. Et c'est sur le travail en prison. Et alors, en temps normal, on peut le trouver dans certains lieux de diffusion, des lieux associatifs et militants aussi. Et puis, il y a le PDF en ligne, qui est en accès libre, parce que c'est un journal à prix libre. Donc on a une politique de prix libre. Ça vous dérange pas le son derrière, comme ça je dois pas.
Non, c'est la vie.
La vie, ouais, c'est ça. voilà, moi j'ai mon chien qui ronge son os parce qu'il s'ennuie. Voilà, donc je crois que c'est déjà. Enfin, je sais pas s'il faut plus d'informations.
Non, mais c'est déjà super bien. Tu fais déjà plein de choses, dis donc.
Bah oui, c'est le. En fait, on est des bénévoles.
Et d'ailleurs, comment ça se passe maintenant avec ce confinement? Et avec cette pandémie, quoi.
Mais alors, tu tombes à pic, je peux tutoyer, hein?
Oui, bien sûr.
Tu tombes à pic parce que là, on vient d'envoyer hier soir une carte blanche à la Libre avec une bonne liste de signataires, autant associatifs que des personnalités du monde, enfin public, sur justement la situation des prisons, enfin en prison là, en temps de confinement. Bah, en fait, déjà en temps normal, il faut savoir que la situation dans les prisons, elle est déplorable, ça je crois que tu le sais. Que ce soit en termes de promiscuité sociale forcée, que ce soit d'insalubrité ou que ce soit la condition même de santé et condition physique des détenus, le taux de maladies d'immunodéficience, de maladies pulmonaires, cardiaques, toxicomanie et tout est 10 fois plus élevé que la normale. Taux de suicide aussi, bien entendu. Là, maintenant, avec, en plus des sous-effectifs, au niveau des agents pénitentiaires, pas qu'on veuille qu'il y ait plus d'effectifs, mais qu'en tout cas, il y a clairement un point d'articulation à penser là-dedans entre restrictions néolibérales et enfermement de plus en plus, massif.
Ou même des alternatives à l'enfermement, que les gens ne soient pas forcément enfermés.
Ah oui, mais nous, on est, il y a quand même une ligne assez, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a quand même une partie de nos membres qui ont une ligne abolitionniste et nous, on vise quand même au décloisonnement maximum des prisons pour pas trop m'impliquer politiquement, mais je crois que c'est quand même ça l'idée, oui. Mais là, en fait, il y a des tensions. Ben, en Italie, il y a déjà eu des tensions, résistance, révolte assez grandes. En France, ça commence aussi. Et là, en Belgique, la tension monte énormément. Il y a de plus en plus de cas. Enfin, on dit il y a de plus en plus de mises en quarantaine. On ne dit pas que c'est des cas, mais il y a de plus en plus de mises en quarantaine. Les gardiens, toutes les visites ont été restreintes.
J'ai vu que même en France et en Italie, il y a même plus du tout de visites. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se sont soulevés, quoi.
Mais en Belgique non plus.
D'accord. Depuis combien de temps?
Il faut regarder, mais je crois depuis le 13 mars. Même les commissions de surveillance ne rentrent plus, donc il y a un appel téléphonique. Mais bon, on sait à quel point c'est compliqué d'avoir droit effectivement à des appels en prison.
Est-ce que toi, tu as des contacts de prisonniers et est-ce que tu les as appelés directement pour avoir justement leur parole à eux?
Non, parce que les détenus qu'on connaît, enfin que... sont sortis heureusement, mais il y a parmi nous des gens qui sont en contact avec des gens sur place, oui. Parce que ce qui est terrible aussi, c'est qu'ils non seulement ils sont doublement confinés, ils sont doublement exposés, mais en plus ils sont doublement enfermés puisque ils n'ont pas accès à l'information, en fait. Et toutes les procédures pour la fouille à la sortie du préau et tout est maintenue par les agents pénitentiaires, alors qu'en fait c'est complètement à contre à contre-sens des mesures sanitaires, quoi. Donc c'est une aberration totale de laisser les détenus enfermés en temps de pandémie, là.
Est-ce qu'il y a des plans B pour pouvoir les loger?
Mais alors la question effectivement de la presse pose souvent. Donc déjà il y a une circulaire là qui est pas encore sortie ou qui vient de sortir hier, qui invite les directeurs à libérer le plus possible de détenus. Qui ont déjà fait des congés. Donc pour tout ce qui est après, bah, en fait déjà il y a des détenus qui ont quand même des familles et des réseaux encore. Ensuite, de la même manière que quand en fait ils sortent après, enfin quand ils le peuvent légalement, bah il y a un suivi social. Donc continuer ce suivi social. Nous, notre but c'est de faire sortir les gens de prison. Ensuite, l'État a rempli sa fonction sociale. Nous ici, on peut espérer encore essayer de dire que nous sommes dans un État qui
même si c'est beaucoup des associations
et
des personnes bénévoles qui au final font le travail que l'État devrait prendre en charge aussi, tu vois, enfin
bah bien sûr parce qu'on bien sûr, mais ça c'est comme le système de santé là actuellement, quoi, on peut faire un parallèle.
Tout à fait. Et alors est-ce que donc toi tu peux même plus aller rendre visite
non.
Ni tout ça, ni faire des activités, quoi que ce soit.
Non.
Et quelles sont encore les autres options qui restent pour faire bouger les choses?
Pour faire bouger les choses de manière en dehors de la crise?
Non. Parce qu'à mon avis, cette crise, elle va sûrement durer beaucoup plus qu'un mois que de ce qu'ils nous disent, parce que vu
le problème sanitaire
que ça va engendrer, la longévité de cette crise, tu la vois comment?
C'est simple, je crois que si l'État ne prend pas maintenant des mesures urgentes de dépistage systématique des détenus, de libération maximum de toutes les personnes qui sont libérables légalement, mais aussi de toutes les personnes les plus vulnérables physiologiquement et au niveau de la santé, etc., on va vers une crise sanitaire terrible en prison, une crise sociale et politique qui va s'accentuer dans les prisons, parce que là, même au niveau des gardiens, je ne suis pas du tout porte-parole des gardiens, mais au niveau des gardiens, il y a un absentéisme de plus en plus grand, qui est déjà un problème récurrent, et on va faire en fait de la prison un nouveau centre pandémique. Un épicentre pandémique.
Et est-ce que tu n'as pas peur justement que la solution soit comme il y a eu
les grèves.
La période des attentats et des grèves, justement c'est l'armée qui a dû intervenir. Est-ce que tu vois ce scénario arriver de loin?
Ce sont des tensions sociales et politiques, et là on est en temps de crise, donc on n'a pas vraiment de vue sur ce qui peut se passer. C'est pas impossible, c'est vrai, mais alors si ça devait arriver, ce serait d'autant plus une raison pour que l'État libère les prisonniers, pour qu'il n'ait pas à finalement mettre en place des moyens trop importants pour contenir en fait une situation aberrante, alors qu'il y a d'autres urgences actuellement.
Et tu t'attends à avoir une réponse dans les combien de temps? Parce que c'est en mode urgence, là, ce que tu... Enfin...
Mais alors, nous, on espère que ça sera publié dans la journée, dans la semaine. Parce qu'on a quand même, on a quand même des noms très importants qui peuvent faire un poids dans la représentation publique et politique. Et puis, on espère qu'après là, il y aura non seulement une sensibilisation citoyenne, et puis que les politiciens prendront, ils ont pas beaucoup de temps, quoi. Ils devraient prendre. Si d'ici le 5 avril ils n'ont pas pris des mesures, je trouve ça aberrant.
Ouais, ils devraient tous être au café et à la coke et plus jamais dormir et continuer.
ils ont fait le choix de vouloir avoir ce genre de poste et de vouloir avoir cette fonction de responsabilité. Normalement, ils ne les prennent pas, les responsabilités. Qu'ils les prennent maintenant.
Tout à fait. Pardon, excuse-moi. Je voulais revenir sur le numéro vert, le dispositif de relais. Ça fonctionne comment? Et c'est quoi ce numéro? Est-ce que tu peux nous le donner si tout le monde y a accès?
C'est le dispositif relais, qui est une ASBL, qui a mis qui a fait une communication qui s'appelle « Communiquer malgré les barreaux, SOS prisonnier ». Le numéro, c'est le 0800 20 48 9, donc 0800 20 489. Et le texte dit « Nous avons le plaisir de vous informer que le dispositif relais a mis en service ce numéro vert gratuit pour les détenus. Il vise à offrir un soutien pendant toute la détention où la personne détenue peut exprimer ses difficultés dans un climat de confiance. Il vise également à garantir l'accompagnement des démarches de ces personnes en vue de leur réinsertion à la sortie de prison. Un soutien au projet individuel de réinsertion sociale de chaque personne, une aide administrative et juridique. » Donc ça, c'est déjà d'un côté une porte vers l'extérieur.
Donc eux peuvent appeler ce numéro, mais nous, on ne peut pas les appeler. C'est ça que je viens de
comprendre. Non, nous on ne peut pas les appeler. Nous, on peut pas les appeler.
Je comprends, mais je vais te mettre dans mes contacts. Rappelle-moi ton prénom, désolé.
Non, pas de souci, c'est Renaud, donc R-E-N-A-U-D, trait d'union, Selim, S-E-L-I-M. Si tu tapes genepibelgique.be, tu vas arriver sur le site de notre ASBL, et là, il y a une page pour la brèche. Voilà. Et c'est là où tu peux trouver aussi la brèche en PDF, en accès libre et gratuit. Et sinon, on a les pages Facebook du Genepi Belgique et la page Facebook de la brèche.
Mais c'est trop bien, tu donnes même de la lecture à nos auditeurs. Bisous,
bisous.
Et bon confinement.
Merci à toi aussi, hein. Ciao.
Salut, ciao.
Ciao, 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 ciao.
Aujourd'hui, j'ai testé.
Tu connais Nestor Magno ?
La livraison locale.
Non, pas du tout. Ah, j'irai, trop bien.
De livres.
Donc, c'est un anarchiste. C'est un anarchiste ukrainien. C'est une étiquette qu'on met aux gens maintenant, mais je sais pas s'il se disait lui-même anarchiste à l'époque, mais à mon avis quand même, parce que il avait repensé juste après la première guerre à une espèce de redistribution des terres, tu sais, travail commun, etc. Et tout ça entre paysans, quoi. Et donc lui était un des leaders reconnus, mais pas non plus tu vois, à la mort, quoi. Et il a eu blindé d'ennuis, notamment avec toute une série de gars qui sont passés par là, parce qu'à ce moment-là, l'Ukraine était riche et très convoitée, etc. Donc t'as eu les Autrichiens contre lesquels ils se sont battus, puis après t'as eu des bandits, puis t'as eu les Russes blancs, quoi, donc les tsaristes, etc. Et puis finalement l'armée rouge qui est arrivée, il s'est encore battu contre eux. Il était un très grand stratège, donc il s'est fait connaître comme ça. Et c'est un personnage vraiment, tu sais, de légende, quoi.
Sa jambe droite ne semblait retenue au corps que par un seul tendon, et les médecins étaient fort surpris de ce qu'elle put encore fonctionner. À la joue droite, il portait une profonde cicatrice qui s'étendait de la lèvre à l'oreille, trajet d'une autre balle. Ses traits, sa peau granuleuse, sa pâleur consomptive, n'était animé que par l'intensité du regard. Tiens, consomption. Consomption.
Consomption.
Amaigrissement et dépérissement dans une maladie grave et prolongée. Et voilà que ça recommence.
Et en fait, c'est une biographie qui est sortie dans les années 80. Et c'est comique parce qu'ils l'ont ressortie maintenant, parce qu'on vit de nouveau dans une espèce de... Tu sais, il y a de nouveau une espèce d'élan. Voilà.
Ça marche, les livraisons ?
Bah, écoute, aujourd'hui... ça a bien marché, ça commence un peu à prendre. Donc là, après, je dois me tailler, je dois aller à Boisfort. Bon, voilà, j'ai dit que je faisais tout Bruxelles, donc c'est ma faute. Donc je suis à vélo, tu vois. Donc, okay. Et puis après, je vais chez une copine qui m'a pris des livres, puis chez une autre personne, et puis je rentre chez moi. Donc là, j'ai eu, au total, je dois avoir déjà 10 commandes, et j'ai l'impression que ça prend un peu, puis je dois continuer à en mettre sur Facebook pour continuer à bosser aussi. Et j'ai deux avantages. D'abord, je viens d'arriver, donc on va dire que la galère, je savais bien qu'elle arriverait. Bon, là, elle est plus trash que prévu, mais voilà, c'est pas non plus... Comme je suis... Enfin, alors la deuxième chose, c'est que je suis tout seul, quoi. Donc je suis vraiment... J'ai pas de gens à payer, j'ai la galère, mais je savais bien, et donc j'avais été un peu préparé. De toute façon, pour l'instant, tu sais, ça fait quoi? Ça fait... 8 jours que ça a commencé, on est encore dans la phase où parfois on trouve ça un peu drôle et c'est un peu excitant, et puis on se dit ça va faire. Mais là, peut-être je m'en rends pas bien compte encore de ce que ça va faire, mais bon, après, et puis ce système de livraison fonctionne un peu et arrive à, je sais pas, à me permettre de me brouiller un petit peu quand même, on verra.
Je vais te faire de la pub en tout cas.
Merci beaucoup.
Librairie Novembre, rue du Fort. Rejoignez-les sur Facebook et ils vous livrent à toute heure, dans tout Bruxelles.
Renaud Vivien, tu es juriste et coordinateur du service politique à Entraide et Fraternité et tu as publié une tribune sur le site de la Libre Belgique le mercredi 25 mars qui s'appelle « La gestion calamiteuse du coronavirus par la Banque mondiale et le FMI ». On peut aussi signaler que tu as travaillé pour le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, le CADTM, puisque c'est une des thématiques qui est traitée là dans ta tribune.
Oui. Donc c'est la thématique de la dette qui est indispensable pour comprendre les inégalités actuelles entre le Sud et le Nord, et plus largement entre les différentes classes sociales. Donc la dette, c'est un sujet pertinent que je continue à suivre au sein d'Entraide et Fraternité. Et donc, nous collaborons également, bien évidemment, avec...
Donc, pour commencer, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux de la propagation sur le continent africain ? On entend beaucoup parler du Maroc, mais le Covid-19 est déjà présent dans une quarantaine de pays africains, en tout cas le 24 mars, c'était le cas, avec de nombreux morts en Algérie et des cas en Égypte, par exemple.
Où il y a le premier cas détecté. Mais oui, non, ça augmente, ça évolue malheureusement de jour en jour. Le virus se propage sur le continent africain et puis aussi sur les autres continents au sud, en Amérique latine, en Asie, dans les Caraïbes. Haïti vient d'être frappé également par le coronavirus et on comprend toute l'inquiétude de la population haïtienne aujourd'hui, puisque la population haïtienne a été frappée quelques années plus tôt par une autre épidémie qui a fait 9000 morts, c'est au moins 9000 morts, c'est le choléra qui est arrivé après le séisme de 2010.
Et est-ce que tu peux nous éclairer sur le lien qu'on peut faire entre l'état des politiques sanitaires en Afrique notamment et la Banque mondiale et le FMI ?
Le lien, il est assez clair dans le sens où donc la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ce sont les deux grandes institutions internationales qui orchestrent depuis déjà presque 40 ans, depuis le début des années 80, ce qu'on appelle toujours les politiques ou les plans d'ajustement structurel, qui sont en fait des méga plans d'austérité qui ont été imposés à tous ces pays, pays africains, latino-asiatiques, des programmes d'austérité. Qui se sont traduites par des coupes, notamment dans le secteur de la santé, suppression de postes de travail, suppression de lits d'hôpitaux, sous-financement des équipements, des infrastructures, augmentation du prix des médicaments, donc un ensemble de politiques d'austérité qui ont délabré les systèmes de santé dans ces pays.
Oui, jusqu'à dire en sous-titre dans ta tribune que la dette tue.
Elle tue littéralement, puisque en fait, la Banque mondiale et le FMI ont prêté de l'argent à ces pays du Sud, mais à la condition qu'ils opèrent, comme je le disais, plutôt des coupes brutales dans les secteurs. Il n'y a pas que la santé, il y a l'éducation, etc. Enfin, c'est plusieurs secteurs sociaux qui ont été amputés pour justement rembourser la dette. Mmh. Pour justement rembourser la dette, et on voit bien que la dette n'a même pas diminué, au contraire, elle a augmenté. Donc, si je reprends les chiffres officiels, donc ceux qui sont donnés par la Banque mondiale, la dette des pays du Sud, en général, a doublé entre 2000 et 2017. Mmh. Donc, les politiques d'austérité n'ont même pas permis de réduire la dette dans ces pays-là. Et la dette tue aussi d'une deuxième façon, c'est-à-dire que, c'est lié, le paiement, donc là, on parle d'aujourd'hui, annuellement, en moyenne, les pays les plus pauvres, ceux qui sont classés les plus pauvres par la Banque mondiale et le FMI, dépensent 4 fois plus dans le remboursement de la dette par rapport à la santé. Donc il y a 4 fois plus d'argent qui part dans le remboursement de la dette comparé à ce qui part dans le secteur des soins de santé. L'argent public qui devrait servir à la population, donc à financer des hôpitaux, à recruter, à bien payer les médecins, les infirmiers, les infirmières, ben cet argent-là, en fait, il est détourné puisque cet argent sert au remboursement de la dette qui est le poste prioritaire pour les créanciers et pour les gouvernements dociles des pays du Sud.
Oui, et ça, c'est le cas de Haïti que tu citais tantôt.
C'est notamment le cas d'Haïti. Et Haïti rembourse plus d'argent chaque année pour le paiement de la dette que pour la santé. Donc, c'est un vrai drame. C'est un tel drame qu'aujourd'hui, donc, comme je le disais tout à l'heure, Haïti est frappé par le coronavirus. Et il y aurait un peu plus d'une centaine de lits de soins intensifs. Vous voyez ? Donc, des équipements largement insuffisants. Et Haïti continue à payer sa dette. Donc là, il y a vraiment une urgence à changer les priorités. Et pour changer ces priorités, il faudrait tout simplement, donc ça c'est une mesure d'urgence, c'est une mesure immédiate, c'est une mesure de bon sens, qui serait d'arrêter de payer la dette.
Et donc cette demande de suspension du paiement de la dette de ces pays, vous la faites entre aide et fraternité, le CADTM, auprès de qui et quelle réaction vous avez ?
Oui, mais on l'a fait... Ce qu'il faut déjà dire, c'est que cette suspension, qui paraît une mesure de bon sens, n'est même pas dans le plan imaginé par la Banque mondiale et le FMI, donc le plan d'aide qu'ils ont annoncé fièrement au début du mois de mars, puisque le FMI et la Banque mondiale, face à l'épidémie, ont dit on va débloquer de l'argent pour aider ces pays qui sont contaminés, qui sont frappés par le coronavirus. Et la suspension du paiement de la dette n'est même pas au programme de cette aide. Et c'est même le contraire qui se passe, puisque ces deux institutions-là, Banque mondiale et FMI, vont alourdir la dette. Alors qu'il faudrait la suspendre, annuler une bonne partie de cette dette-là, ils vont au contraire en remettre une mouche, en alourdissant le poids de la dette, en prêtant à nouveau de l'argent à ces pays. Et donc, la mécanique est implacable, hein, puisque plus de prêts veut dire plus de dettes à rembourser. Et aussi, donc ça c'est 64 milliards de dollars qui sont prévus, hein, 64 milliards de dollars d'aide. Et là, on voit bien que c'est pas une réelle aide, puisque dans ces 64 milliards de dollars, il y a seulement 400 millions, donc c'est 0,6% de cette aide, qui serait des dons. Le reste, c'est de la dette. Et cette partie qui est donnée, cette toute petite partie qui est donnée, vous précise le FMI, doit servir en priorité à rembourser la dette du FMI qui arrive à échéance. Donc l'argent ne doit même pas rester dans le pays totalement, ça doit servir en priorité à payer la dette à l'égard du FMI. Donc on a peu de chances de convaincre ces institutions-là, puisque en fait, depuis qu'elles sont créées, on voit bien que elles n'agissent pas pour le bien des populations. Hein. Nous, on s'adresse à la population. Donc à la population, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, entre des fraternités a comme stratégie de sensibiliser le grand public à ces problématiques-là. Donc nous, ce qu'on espère, ce qu'on veut, c'est une sensibilisation pour ensuite se mobiliser et faire pression sur les politiques. Et par exemple, la petite Belgique, qui n'est pas si petite que ça dans ces organisations internationales, puisque la Belgique a un droit de vote qui est assez important au sein du FMI et au sein de la Banque mondiale, la Belgique pourrait très bien proposer une annulation de dette plutôt que de réendetter ces pays-là, ces pays qui sont frappés par le coronavirus. Donc nous, notre stratégie, c'est ça, c'est sensibiliser, alerter sur ce problème, donc déjà démystifier cette aide, hein, c'est pas une aide qui est fournie par la Banque mondiale et le FMI au pays, c'est au contraire, on va aggraver le problème, donc déjà faire comprendre cette réalité au grand public pour qu'il y ait ensuite une mobilisation et ensuite une pression sur le politique.
Sentir la paix. Something eaten. Oh yeah, the news. I said something eaten. Yeah. Oh.
Ebola. Ebola eaten.
Don't touch your friend.
No touching. No eating something.
It's dangerous.
Ebola. Ebola eaten.
Don't touch your friend.
No kissing. No eating something.
It's dangerous. Don't touch your friend.
No touching. No eating something dangerous. Ebola.
Une question par rapport à Ebola, qui a déjà connu notamment l'Afrique de l'Ouest. en particulier la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, entre décembre 2013 et 2016. Donc il y a eu ce violent virus qui a fait plus de 11 000 décès, et selon l'OMS, ça serait plus autour de 20 000. Et du coup, ces pays, ils ont quand même acquis une expérience terrible mais de virus qui peuvent peut-être leur permettre de faire face au Covid-19.
Ben, on aurait pu espérer, mais en fait, la réalité est totalement différente, puisque ce qui est en train de se passer avec les pays qui sont frappés par le coronavirus, donc l'aide, entre guillemets, qui est faite par la Banque mondiale et le FMI, ils l'ont fait de la même façon pour la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, qui étaient confrontés à Ebola en 2014-2015, comme tu viens de le dire. Et en fait, c'était la même chose qui a été fait. On a fait semblant de les aider en leur prêtant de l'argent. Donc en aggravant le problème de la dette. Mais on n'a pas du tout mis un terme aux politiques d'ajustement structurel, à ce méga plan d'austérité. La logique a été toujours de dire il faut continuer à réduire vos déficits budgétaires et à payer votre dette en priorité. Donc ces pays aujourd'hui, ces trois pays, Guinée, Sierra Leone, Libéria, sont aujourd'hui confrontés au coronavirus avec quasiment les mêmes moyens, les faibles moyens qu'ils avaient au moment où ils ont été frappés par Ebola.
Merci beaucoup Renaud Vivien pour nous avoir éclairé sur les liens entre le FMI, la Banque mondiale et la gestion donc du coronavirus. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Là, on a parlé des pays du Sud, mais on pourrait largement faire le lien avec ce qui se passe en Belgique et en Europe. L'État des hôpitaux, donc les hôpitaux, si on s'en tient à la Belgique, sont sous-financés parce que on a imposé un dogme austéritaire, un dogme néolibéral qui prétend que il faut couper dans les budgets sociaux parce que c'est des dépenses publiques excessives et donc il faut réduire ces dépenses publiques. On voit que c'est tout l'inverse qu'il faut faire, il faut arrêter avec ces politiques d'austérité, à la fois dans les pays du Sud, mais également aussi ici.
Tu connais le rap, tu connais pas le flow, c'est pas sexy. La vie elle est simple, tu joues avec le feu, c'est pas sexy. On préfère les chouins, oui les chouins elles sont faciles. Elles vont pas t'exiger les restos, exiger les présos. C'est grâce à Dieu le Père. Tu connais le rap, tu connais pas le flow, c'est pas sexy. La vie elle est simple, tu joues avec le feu, c'est pas sexy. On préfère les chouins, oui les chouins elles sont faciles. Elles vont pas t'exiger les restos, exiger les présos. Austérité, mon Gabon est doux, elle bivit la douce. Les Tshizambenge sont des fiertés, les goudronniers font des posters. Après taper l'achat, Sanakayo Bisabango, Sabrakayo Bisabango, jusqu'à Poulamamo Bisabango, Tatoume Kouibe Sabano. Désormais tout coûte cher, l'essence coûte cher, l'école coûte cher, la bouteille de gaz est à 6000 dami, ça coûte cher. Ah, beaucoup d'étudiants, pas d'établissement. Austérité. Beaucoup de diplômés, pas de recrutement. Austérité. Mon Gabon est doux, oh. Adieu. Elle vivit la douce. Aïe, oh, la croix. Mon Gabon est doux, oh. Adieu. Elle vivit la douce. Aïe, oh, la croix. Mon Gabon est doux, oh. Doux, oh.
Alors, petite capsule en direct de Riga en Lettonie. Donc, ici, on vit aussi au rythme du Covid-19. Mais on n'en est pas au stade de la Belgique, de l'Italie ou de la France, c'est-à-dire qu'on peut encore sortir sans dérogation. Par exemple, ce matin, moi, je suis allée faire un petit footing à 7h30 du matin. J'avais pas besoin de dérogation. Je me suis pas fait arrêter. Personne ne me demande pourquoi je cours. Et les gens continuent à aller au travail. Les transports en commun fonctionnent, mais la zone près des conducteurs, en fait, est délimitée. Afin d'éviter qu'ils soient contaminés par les passagers, mais les gens continuent de sortir. On a été bien sûr très fortement conseillé de rester chez soi, donc maintenant tout s'organise plutôt en télétravail. Si on a un emploi qu'on peut exercer de son canapé, ben on le fait. Hein. Par exemple, moi c'est mon cas. Normalement, j'ai pas vraiment un emploi qui nécessite d'être non-stop derrière un ordinateur. Je suis dans l'éducation, dans la formation. Donc bien sûr, hein, je travaille avec mon ordinateur, mais d'habitude, Moi, mon job, c'est d'être au contact des gens, mais là, je le fais via vidéoconférence. C'est un petit peu bizarre, c'est fatigant même. J'ai pas l'habitude de passer autant de temps devant l'ordinateur. Et l'idée, c'est de garder un rituel proche de celui que j'ai habituellement quand je vais au travail, donc me lever à la même heure, me laver, m'habiller, être présentable, en fait. Garder ce rythme-là pour pas tomber dans un mode lock, quoi. On reste chez soi, on est conseillé de faire ça afin d'éviter toute propagation du virus. Bon, quelle est la prise de conscience en fait des gens ici, parce qu'on peut continuer de sortir en fait. Les gens qui doivent rester en quarantaine sont ceux qui ont voyagé ou qui ont été en contact direct avec des personnes qui ont voyagé dans l'une des zones à risque. Donc c'est-à-dire la Chine, l'Italie, la France, l'Iran, l'Espagne, le Japon. Je sais plus encore qui est dans la liste, il y a pas mal de pays. Et ce qu'a fait la Lettonie en fait depuis la semaine dernière, c'est que les personnes qui arrivent de l'étranger, donc à l'aéroport, sont testées et sont ensuite conseillées de se mettre en auto-quarantaine pour 14 jours et d'éviter le maximum possible le contact avec d'autres personnes. Mais jusque-là, les autres, on est juste fortement conseillé en fait d'éviter tout contact social et de rester plutôt chez nous et de nous confiner le maximum possible en fait. C'est plutôt ça. Mais aujourd'hui, j'ai lu dans les médias qu'en fait il y avait eu les premiers cas de personnes contaminées par contact social, donc soit en ayant pris le bus, soit en ayant été au magasin. Donc faut voir comment les choses vont évoluer dans les jours à venir. Est-ce que nous aussi, on va se retrouver avec des mesures aussi restrictives qu'en Italie, en Belgique, ou en France, ou en Chine? Je sais pas encore. Parce que, bien évidemment, tous les jours, le nombre de cas augmente, mais il n'y a pas eu de morts ou de cas graves en Lettonie. Par contre, en Estonie, en Lituanie, oui, il y a eu quelques cas. Donc les mesures là-bas, je crois, sont plus restrictives. C'est aussi intéressant de voir que les personnes contaminées par le virus sont des députés, des hommes politiques, puisque bien évidemment, ce sont des gens qui ont voyagé. Donc voilà comment ça se passe un petit peu en Lettonie. C'est calme, c'est calme. De toute façon, c'est plutôt souvent calme, nous, en termes de contacts sociaux. En Lettonie, c'est pas un pays latin, donc les gens gardent leur distance. Sauf que là, on voit dans la rue, quand tu marches, tu vois, tout le monde se lance un petit regard suspect. Si une personne tousse ou éternue, oulala, encore plus de distance. En termes de commerce, de magasins, bien évidemment, tout ce qui est commerce de première nécessité, ils sont ouverts. Donc à partir de cette semaine, de ce week-end, les centres commerciaux vont être fermés le week-end. De toute façon, franchement, on n'a pas besoin. Si t'es censé être confiné, c'est peut-être pas pour aller faire du shopping et tester de nouvelles chaussures. Mais bon, il y a des gens qui avaient nécessairement cette envie le week-end dernier, d'où cette nouvelle mesure. Les bars sont encore ouverts jusqu'à aujourd'hui, donc 25 mars. J'ai pas lu d'interdiction. Les restrictions, c'est 50 personnes maximum. Et les bars peuvent être ouverts que jusqu'à 23 heures. Donc il y en a qui s'organisent en fait différemment. Par exemple, ils mettent en ligne des DJ sets pour garder un contact en fait avec leurs habitués. Ou il y en a qui proposent en fait des bières à emporter. Donc tu les achètes au bar et tu pars les consommer chez toi. Donc ça, c'est plutôt un bon système. Dans la restauration, là, c'est un petit peu plus la panique. Parce que là, ils sont obligés de passer, par exemple, par Wolt, Bolt. Mais j'ai lu, par exemple, pour un lieu dans lequel j'aime bien aller, que pour eux, c'est pas la meilleure solution, parce que ça leur revient cher, en fait, de passer par les coursiers. Et je pense que j'imagine qu'on est pas mal à se poser la question aussi, et pour ces pauvres coursiers, en fait. Eux, ils sont... ils sont bien plus exposés et tout le monde en fait passent à la livraison à domicile, mais comment ça se passe pour eux? Je sais pas, déjà qu'ils ont des conditions de merde, des conditions de travail qui sont quand même merdiques, là, ils sont au premier plan pour tout ce qui est livraison, je sais pas comment ça se passe. Pour tout ce qui est course, etc., il y a un site qui a été mis en place, donc un site internet où on peut aider ou demander de l'aide. J'ai pas encore essayé, j'ai envie de m'enregistrer, en fait, de proposer mon aide. Je sais pas trop, en fait, là, pour le moment, comment ça se passe. On doit prendre un selfie avec sa pièce d'identité, donner son contact, et je pense qu'après, on reçoit un coup de fil ou un email avec éventuellement un autre contact d'une personne qui a besoin d'aide. Ça, j'aimerais bien essayer. Ouais, si on peut être utile en cette période à des personnes qui sont plus vulnérables ou qui justement ont voyagé et peuvent pas sortir de chez elles, bah, autant rendre service. J'ai vu aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux, donc ceux qui reviennent de l'étranger qui doivent se mettre en quarantaine, ils ont eu le souci de pas pouvoir rentrer chez eux, en fait, pour pas mettre certaines personnes plus vulnérables ou à risque en danger, en éventuellement les contaminant, et qui cherchaient à savoir s'il y avait d'autres personnes qui auraient un studio ou je sais pas un endroit libre en ville où ils pourraient se confiner pendant 14 jours, payer un loyer, mais avoir un espace où ils seraient tout seuls et où ils contamineraient personne avant de pouvoir rentrer chez eux. Donc il y a ça aussi comme chaîne de solidarité, en fait, qui se met en place sur les réseaux sociaux ici. Donc voilà, c'est calme, je sais pas, c'est vraiment une situation étrange d'être complètement immobilisé, en fait, par quelque chose qui a l'air d'être complètement banal. Je sais pas, personnellement, j'ai encore du mal à comprendre, à réaliser la situation. Surtout que nous, ici, en Lettonie, on est encore entre deux, quoi. On doit être confinés, mais on peut encore sortir, il y a quelques rassemblements. Alors que quand je suis ce qui se passe, par exemple, en France, moi, ça me fait beaucoup plus flipper, quoi. Là, c'est le nombre de personnes de décès qui augmente, les restrictions de liberté de plus en plus strictes, qui font penser à 1984, quoi, presque. Et on n'en est pas encore là en Lettonie, donc je sais pas, j'ai encore du mal à réaliser, faudrait en rediscuter dans un mois, parce que nous, ici en Lettonie, ça a été direct le 14 mars, on nous a dit c'est état d'urgence jusqu'au 14 avril au moins. Donc au moins, on sait, hein, c'est pour un mois, pas de mauvaise surprise, on sait que ça peut être un mois ou plus, donc on a le temps de se préparer un peu psychologiquement, mais c'est calme. On voit quand même qu'il y a des gens qui restent chez eux. Dans mon immeuble, je pense qu'il y en a qui se sont barrés, soit à la campagne, soit je crois qu'il y a des étudiants étrangers qui sont peut-être rentrés dans leur pays. Parce que quand on est à l'étranger, en fait, il y a les ambassades qui ont envoyé des messages pour expliquer que si on voulait être rapatrié ou que si on voulait rentrer, c'était entre telle date et telle date. On voit pas grand monde, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Bon courage, quoi.
Voilà, ça enregistre, comme ça tu sais.
Ok.
Bonjour, toi, t'es à l'hôtel Flambeau.
Ouais.
Et quelle nouvelle ?
Eh ben, quelle nouvelle ? Pour nous, ça va plutôt bien. On est nombreux dans le bâtiment, parce qu'un peu de personnes avaient envie de faire le confinement autre part, et qu'on a préféré le faire avec le groupe qui était là. Et donc on est nombreuses, on prend des mesures d'hygiène, mais j'essaie de rester solidaire dans cette épreuve. Tout se passe bien. On est parfois plutôt inquiet pour les personnes qu'on héberge, qui n'ont pas de papier et qui pour elles, c'est beaucoup plus compliqué de sortir. Enfin, elles sont beaucoup plus craintives de mettre le nez dehors. Donc, on essaie un peu de réfléchir à comment leur permettre d'accéder quand même à un peu d'air frais, pour rassurer. Et voilà. Pour nous, franchement, on n'est pas à plaindre. On a encore, pour le moment, toute la récup dont on a besoin, et on essaie plutôt de participer à des réseaux de solidarité en redistribuant quand on a des excédents de récup, ou d'être un peu à la guerre de ce qui se passe pour les personnes qui n'ont pas d'endroit où se confiner. Nous, on a vraiment la chance d'avoir cet endroit pour vivre le confinement, mais il y en a quand même plein d'autres qui en sont exclus. Voilà, c'est un peu pour les nouvelles du flambeau.
Et comment ça se passe, un confinement à plusieurs personnes comme ça?
Ça se passe comment? Ça se passe que ça ressemble un peu à une colonie de vacances, où chacune peut proposer une activité et ceux qui en ont envie y participent, avec toujours quand même pas mal de repas collectifs et pas mal de moments passés dans les chambres. Donc ça fluctue vraiment entre des groupes de tailles différentes. Et pour le moment, heureusement, après une semaine, on y trouve encore notre compte. Ça se passe aussi avec encore une attention plus poussée aux réunions pour pouvoir remettre les cadres, les règles, essayer de faire ressortir un peu toutes les émotions que charrie cette période bizarre. Ouais.
Et en termes
de récup, c'est du nettoyage. En fait, oui, il y a beaucoup plus de nettoyage qu'avant.
Il y a plus de nettoyage qu'avant, c'est ça que tu dis.
Ouais.
Et en termes de solidarité, parce que j'en avais déjà énormément, qu'est-ce qui change?
Ce qui change peut-être, c'est d'essayer d'avoir accès à d'autres réseaux ou de rejoindre ceux qui se créent par rapport à ce contexte-ci. Ce qui change, c'est aussi peut-être le fait que maintenant tout est un peu plus... on n'est pas encore au fait de la France où il faut montrer des façons pour sortir, mais on sait qu'on pourrait tendre à ça, et donc c'est être un peu au courant, vigile plus. Il y a quand même plus de vigilance aussi pour le déplacement, mais c'est peut-être essayer de toucher un public qu'on connaissait moins. En tout cas, pour ma part, c'est encore plus tourné vers les personnes sans domicile, qu'elles aient ou pas les papiers, donc qui sont pas sur toutes les pages Facebook qui ont été créées, sur lesquelles se sont créés des nouveaux réseaux de solidarité. Donc, je pense que c'est ça qui change beaucoup.
Est-ce que les réseaux de solidarité dont tu parles passent surtout par Facebook?
Ouais, je trouve que pour moi j'ai rejoint ceux qui sont créés sur les pages Facebook. Et en fait, c'est un public qui trouve ça. Donc, j'ai essayé de retrouver vraiment un peu des contacts plus privilégiés avec des personnes, contact plus direct aussi avec des personnes, ou essayer de vraiment redistribuer où c'est nécessaire, et donc peut-être pas aux plus gros collectifs qu'on connaît, et essayer de chercher des plus petits.
Et comment t'arrives à les trouver au final?
C'est un peu du via-via. Il y a une des colocs qui elle est chef dans les Marolles, et donc là-bas, ils ont commencé à mettre en place elle participe à la réalisation de paniers de nourriture pour des ménages fragilisés. Donc là, c'est une partie de leur équipe qui va par là. Sinon, c'est oui, demander un peu via. C'est des personnes à qui j'avais pas spécialement de contact et que j'ai recontacté pour voir comment ça se passait, ou travailler avec un autre public.
Et là, vous êtes au complet ou vous êtes encore susceptible d'accueillir de nouvelles personnes?
Non, on est vraiment complet. Là, c'est... on n'a pas du tout d'espace commun. Enfin, il y a une chambre qui reste vide pour avoir un autre petit espace commun. On n'a vraiment pas de grands espaces communs. Et dans cette période-ci, on ne se sent pas non plus à l'aise d'accueillir des personnes fragilisées qu'on pourrait potentiellement contaminer. Donc on est plutôt dans le soutien parce qu'il y a des lieux qui s'ouvrent de mettre en place, d'aider à l'installation de personnes que d'accueillir à l'hôtel.